In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages. Eh bien voilà, c'est la rentrée. Une rentrée agitée dans le monde comme il va, une rentrée dont il se dit qu'elle est bloquée. Surtout une nouvelle saison qui commence, et déjà un mois de septembre riche dans le monde des livres en Anjou. Et pour ce premier épisode de la saison 2025-2026, 158e numéro de l'émission quand même, des nouveautés. Comme dans les grands médias, je me paie le luxe d'explorer la rentrée littéraire du territoire et aujourd'hui, ce sont deux auteurs que je reçois, deux auteurs qui sont déjà venus dans l'émission, mais ce qu'ils nous offrent aujourd'hui vaut vraiment le détour. Valentin Dedon revient et nous parle encore de football. Mais avec quelle classe ! Et Joël Glaziou nous propose deux textes réjouissants, chacun à leur manière. La conversation avec Valentin Dedon a été enregistrée il y a quelques jours, mais Joël Glaziou est déjà là dans le studio. Commençons donc par écouter Valentin Dedon. Bonjour Valentin Dedon.
Bonjour.
Je suis content de vous retrouver dans ce studio. Notre première rencontre avait eu lieu il y a un peu plus de 2 ans autour de vos deux livres, Miettes footballistiques et L'intendresse. Et là, vous revenez en cette rentrée avec un nouveau livre, Le premier fanion, paru aux éditions La clé à molette. Que s'est-il passé pour vous depuis la parution de L'intendresse en 2022 ?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans ? Beaucoup de choses, évidemment. Beaucoup de projets différents, beaucoup de temps d'écriture, beaucoup plus de place laissée à l'écriture. Une petite transition aussi un peu en termes purement de travail vers l'écriture totalement, pleinement. Donc comme un enjeu aussi, comme un petit défi, mais un défi très joyeux, parce que des projets qui avaient besoin de place. Et puis ouais, là on entre après ces trois années dans une petite phase aussi où ben, les projets ils vont pouvoir exister, quoi. Ils vont pouvoir devenir des livres.
Donc période de maturation.
Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais période de réalisation et d'aller au bout aussi de... d'envie, d'obsession, d'aller au bout des projets. Et j'adorais ça. Ouais.
Après Miettes footballistiques, tout n'avait pas été dit sur votre attachement profondément affectif à cette pratique populaire qu'est le football ?
Oui, effectivement, je crois que tout n'avait pas été dit, notamment sur un espace comme ça, un espace un peu sacré, l'origine, la source un petit peu de mon attachement au football. Et c'est vrai que je sentais que cette chose-là, elle était restée à l'intérieur de moi. Je l'avais peut-être évoquée, mais de manière un peu implicite, sans citer le nom du club, sans citer l'endroit, sans entrer véritablement dedans. Et c'est tout un espace qui m'est resté très cher et que j'avais envie de revisiter un petit peu.
Déjà, vous placez la barre assez haut, hein, espace sacré. C'est pas rien ça, hein, ce rectangle vert qui devient un espace sacré. Quoique, il n'y a pas que le rectangle vert avec vous, hein, y a aussi les vestiaires, il y a aussi les avant-matchs, les après-matchs, l'amitié, y a tout ça aussi qui est derrière.
Hein. Ouais, tout à fait, c'est vrai que je ne suis pas sûr que ce livre-là, Le Premier Fanion, il y ait beaucoup de football véritablement quoi, dedans. C'est vrai que c'est plus des décors, des êtres humains, des ressentis, des sentiments, des sensations, des choses un peu fondatrices. Ouais.
Alors bien qu'il y ait d'autres choses qui aient été publiées de vous hein, dans des recueils, il y a ces deux premiers livres. Et moi, j'ai l'impression que ces deux premiers livres, j'en ai une forte mémoire, avaient été écrits dans l'énergie de l'émotion. Presque, il y avait... Dans ces deux écritures-là, il y avait presque une forme d'urgence.
Ouais, c'est peut-être pas faux. Après, c'est difficile d'analyser soi-même les états dans lesquels on écrit les choses. Mais oui, je souscris, même si les deux projets étaient un peu différents. L'urgence, ou en tout cas l'élan urgent et rapide, je distingue plus pour l'intendresse. Mais miette footballistique, je pense que c'était plus long sur le temps. Mais il y avait aussi ce besoin de partager ces émotions fortes et ce goût fort pour ce sport, quoi, et d'enfin mettre des mots là-dessus, des mots d'amour, des mots aussi, des espaces critiques aussi.
Dans le premier Fanion, vous semblez répondre à l'invitation de Georges Perec à la fin de son Je me souviens, puisque vous vous réappropriez l'anaphore. Lui, il avait laissé quelques pages blanches pour que le lecteur puisse tenter l'exercice. Est-ce que c'est bien ça que vous avez fait, reprendre ces pages blanches pour vous approprier cette forme-là ?
Ouais, je sais pas trop. Ça s'est pas forcément joué comme ça avec son livre ou la suite ou ses pages blanches. Mais en tout cas, c'est venu l'élan d'écriture et évidemment l'utilisation de l'anaphore est venue de lui ou d'une conversation avec une amie autour de lui, autour des je me souviens, autour des je me souviens, des je me souviens ou de ce qu'en a fait. Je sais plus le nom de l'auteur, mais il y a un auteur qui a essayé d'expliquer jusqu'à l'obsession chaque je me souviens, de les recontextualiser. J'avais adoré cet exercice un peu obsédant. Bon voilà, et puis en fait, c'est juste l'anaphore et qui a déclenché, on va dire, le geste d'écriture et qui a, je vais pas dire qui a amené les souvenirs, mais qui a juste permis de les assembler. Et j'avais plus qu'à les ramasser, quoi, avec la répétition de ces trois mots. Donc, c'est venu comme ça, plus comme ça, par un geste un peu spontané. Quand on démarre comme ça, on se dit pas je vais faire un livre avec ça, pas du tout. C'était vraiment un exercice joyeux, spontané. Et puis je me suis pris au jeu. Et puis une fois qu'on est dans cette forme, qu'on continue, moi je veux toujours rester fidèle à l'élan premier d'écriture, à la spontanéité. Donc, il s'agit pas d'en changer, même si voilà. La forme me dérangeait un peu au début parce qu'elle est très utilisée, mais c'est pas grave, au contraire j'ai voulu la garder parce que c'est comme ça qu'est venue la possibilité de raconter cet espace temporel, géographique, quoi.
Si je comprends bien, le déclic il se fait avec la conversation avec cet ami. Vous parlez donc, j'imagine, de Perec, j'imagine de Je me souviens. C'est à ce moment-là.
Ouais, c'est à ce moment-là, et puis ça rejoint aussi d'autres faisceaux autour de ce thème-là depuis quelques années. Ça rejoint aussi l'espace des rêves où je rêvais beaucoup que je rejouais un match sur cette pelouse, sur ce stade René Defer, avec une impossibilité d'aller jusqu'au terrain, des impotences qui m'en empêchaient. Donc, je me suis aussi rendu compte que les êtres humains qui avaient constitué cet espace-là de mon enfance, de mon adolescence, je les avais un peu perdus de vue et ça me dérangeait beaucoup. Je me sentais assez coupable de ça. Je sentais que cet espace-là devenait beaucoup trop triste à l'intérieur de moi. C'était trop mélancolique. Il fallait réenchanter ce moment-là, le faire réexister, qu'il redevienne, qu'il trouve sa juste place, que ça redevienne un moment, oui, certes du passé, mais joyeux et fondateur. Et je sais pas, l'écriture m'a permis vraiment de réenvisager ce moment-là, cet espace-là, et de le refaire exister. Je suis retourné là-bas, j'ai fait des entraînements, j'ai retrouvé un petit peu les gens, j'ai renoué aussi un lien amical plus normal, quoi. Je les ai retrouvés, j'ai tout retrouvé.
Perec, dans ses Je me souviens, il est très sec. Ses Je me souviens, c'est des segments de phrases, point. Il n'ouvre rien à partir de ses Je me souviens. Vous, par contre, vous les recontextualisez. C'était important de ne pas se limiter aux fragments du souvenir, mais de l'enrichir pour lui donner peut-être plus d'âme.
Oui, c'est sûr que j'ai gardé l'anaphore, le motif là, avec les trois mots, mais après, je ne me suis pas mis de frontières et je n'ai pas voulu épouser effectivement le rythme de Pérec. J'ai lu Pérec, mais je me souviens, ce n'est pas quelque chose non plus que j'ai dans ma bibliothèque ou que j'ai beaucoup lu. Donc c'était un geste assez facile au final de m'en dégager un petit peu. Et ouais, c'est sûr que c'est des fragments, mais de plus ou moins grande taille, je pense. Et puis des fois, ça déploie quelque chose. Ouais, ça déploie vraiment une émotion et puis ça tire des fils. Il y a aussi une chronologie.
Cette technique, hein, parce que comme ça a été souvent utilisé, comme c'est une forme souvent utilisée, on va parler de technique, elle est étrange parce qu'elle travaille la question de la remémoration. Pour vous, cela a été une remémoration forcée ou bien ce livre est la compilation de « je me souviens » noté au cours du temps dans des carnets ou bien encore vous êtes à une étape de votre vie qui vous invite au bilan ?
Non, j'avais jamais compilé dans un carnet, mais en fait, ce qui s'est joué, c'est que c'est pour ça que ça s'appelle le premier fanion et que je me balade tout le temps aussi dans mon exemplaire du livre avec ce fanion, cet objet.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un fanion ? Parce que les gens de la littérature ne sont pas forcément familiers de ce totem, de cette forme de totem qu'est le fanion.
Mais les gens de la littérature ont tous fait du sport, ont tous été licenciés dans un club. Et ils n'ont peut-être pas des fanions à leur rétroviseur, mais ouais, c'est un petit objet avec une lanière. Et puis qui est un peu un symbole d'une structure, d'un club en l'occurrence, qu'on peut accrocher, qu'on peut garder avec soi. C'est un objet très beau, donc c'est vrai que c'est un petit fanion qu'on nous avait remis, nous, quand on avait, je ne sais plus, j'avais 10-11 ans, et puis après un tournoi. Et bon, quand même, les souvenirs sont venus avec lui, par lui, c'est un talisman, quoi. C'est quelque chose que, sans trop m'en rendre compte, j'ai toujours gardé avec moi, j'ai beaucoup déménagé. Lui, il est toujours resté là, j'ai toujours eu ce geste spontané de l'accrocher à portée de regard ou de le mettre quelque part de bien visible dans la bibliothèque. Et quand même, c'est comme si c'était l'objet qui contenait tous les souvenirs. Et c'est pour ça que je dis que le « Je me souviens », il a été déclencheur, parce que voilà, il y a eu le « Je me souviens », il y a eu cet objet que je regardais sans cesse, et puis c'est comme si j'avais plus qu'à ramasser les souvenirs. Et je ne suis pas allé chercher au-delà, je ne suis pas allé faire des recherches. J'ai accepté la loi de la mémoire, quoi. Est-ce que la mémoire avait conservé ce qui traînait très proche. J'ai ramassé les souvenirs sur mes épaules, aussi incomplets soient-ils, aussi peut-être... je veux dire faux, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est mes souvenirs, quoi.
Alors quand même, pour aller au bout, parce que prétendre que tous les amoureux de la littérature ont tous fait du sport, c'est peut-être quelque chose d'un peu... Voilà, c'est peut-être une projection que je trouve un peu osée, on va dire. Donc ce petit objet que j'ai devant moi, qui est à dominante rouge, qui avec le nom du club, avec un footballeur en pleine action, et puis un fanion sans les franges. C'est pas un fanion, c'est pas un vrai fanion. Il faut qu'il y ait des franges, donc il y a des franges tout autour. Voilà, donc le talisman, et je trouve que le mot est tout à fait parfaitement adapté à l'objet. Voilà, c'est un vrai talisman, et je comprends qu'il puisse, dans l'imaginaire d'un enfant, marquer quelque chose, marquer un souvenir, justement. Vous avez été confronté à la question de la fidélité de la mémoire, parce que la mémoire, elle est souvent émotionnelle. Est-ce que dans vos Je me souviens, vous pensez qu'il y en a qui sont fantasmés ?
Je peux pas dire oui, mais je peux pas non plus assurer le contraire. Certainement que il y en a qui sont recolorisés, idéalisés, transformés. Et je pense que c'est une évidence, quoi, que le souvenir se modèle comme ça avec le temps et avec enrichi de nos expériences aussi, de notre recul.
On parle de ce livre et je vous propose, Valentin, de nous faire une lecture d'un extrait de ce premier fanion.
Je me souviens du stade René Defer. Je me souviens des deux chemins possibles pour y arriver. L'un plus direct, par l'axe principal, en tournant à droite, au feu, un peu avant la mairie. L'autre par derrière, en virant plus tôt. moins fréquenté, plus joli aussi, car du carreau, on pouvait progressivement apercevoir la pelouse et les buts. Je me souviens du petit terrain en bas, en face des vestiaires. Celui du haut, le grand, était réservé aux cadets et aux seniors. Je me souviens du projecteur unique qui tentait d'éclairer le petit terrain l'hiver. Je me souviens de la butte en gravier rouge et de la rangée de peupliers qui séparait les deux pelouses. Je me souviens de l'étroitesse du passage entre la buvette extérieure et la main courante du grand terrain. Je me souviens chaque jour de ce décor. Je trace ses contours, colorie ses grands espaces, l'imprime dans mes pensées. Je me souviens de mon premier entraînement avec mes gants de gardien jaune et rouge. Je me souviens du petit fanion rouge et blanc que Michel nous avait remis à chacun après un tournoi, avec sa fine lanière pour l'accrocher et ses contours tressés, si doux au toucher. Dessiné sur ses deux faces, une silhouette crédible de footballeur conduisant un ballon. Et puis au-dessus de lui, l'inscription « O.Saint-Auloi », mon premier fanion, précieusement conservé depuis, un talisman.
Merci pour cette lecture. Dans vos deux premiers livres, il y avait beaucoup de références littéraires et poétiques. Dans le premier fanion, il n'y en a qu'une seule, le poète russe Boris Rigy, dont il n'existe qu'un seul recueil publié en France, aux tellement excellentes éditions Chêne. Ce recueil s'appelle « La neige couvrira tout ». Qui est-il et pourquoi lui? Pourquoi Boris Rigy?
Alors c'est un poète que j'ai découvert grâce à Bernard Chambaz, qui en a fait une lecture pendant mon grand voyage à vélo qui a précédé l'écriture de l'Intendresse. J'étais allé voir une lecture de Bernard Chambaz au nord de la Bretagne, près de Morlaix, et il avait lu des extraits de Boris Rigy, donc j'avais été saisi par ses textes, et du coup j'avais acheté ce livre-là. Et puis il parle des ruines, quoi. C'est un extrait, je pense qu'il s'agit un peu de la force des ruines et de croire aussi à la résurrection des passés. Peut-être que j'extrapole un peu, j'ai plus l'extrait exactement en tête. Mais oui, c'est un poète russe. Alors, je ne me suis pas forcément intéressé à sa vie, même si je sais qu'il y a un état d'âme un petit peu complexe qui se termine par un suicide. Donc, un poète âpre, mais puissant. Et oui, je garde ce livre précieusement. Et effectivement, il est beau et cet éditeur-là fait des livres très beaux. Ouais.
Poète de la dépression.
Ouais, c'est la poésie du mal-être. Et moi, j'adore la littérature du mal-être. Dans la poésie, dans la littérature, j'adore ce thème-là. Mais dès lors que le style d'écriture illumine quelque chose, quoi. J'ai relu il n'y a pas longtemps Thérèse d'Esquerou de Mauriac. Je trouve ça fabuleux, quoi. Et c'est dur, c'est du mal-être. Mais il y a quelque chose qui jaillit, un truc lumineux qui jaillit, quoi.
Alors, on peut le rapprocher, Boris Rigy, d'un poète comme Attila Joseph ou alors du mythique Stieg Degerman et son livre « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » dans les poètes de la dépression. Cette conversation est enregistrée, vous n'étiez pas disponible pour l'émission parce que vous partez en résidence pour plusieurs mois. Eh bien, vous allez où?
Je pars dans l'Allier, donc dans une communauté de communes.
J'avais peur parce que ça commence par communauté. Je me suis dit, au ciel, vous à Valentin Dedon.
Non, c'est une communauté de communes qui m'accueille. Donc, une communauté de communes qui est traversée par un cours d'eau qui s'appelle la Bèbre. Donc, je vais vivre au-dessus de la médiathèque de Jaligny-sur-Bèbre. Et puis, je vais commencer cette résidence par un petit parcours à vélo partant de la source de la Bèbre pour la descendre jusqu'à l'endroit où elle se jette dans la Loire, à Diou.
Quel vélo? Parce que c'est important avec vous, hein. Les noms de vélos sont très importants. Hein. Ça sera quel vélo cette fois-ci?
Exactement, mais c'est tout à fait vrai. J'ai vraiment choisi le vélo avec lequel je partais.
Oui.
Donc c'est un motobécane, un vieux motobécane avec des pneus un peu plus renforcés pour passer les sentiers, les chemins, les incertitudes des chemins. Et donc, c'est un motobécane que j'avais acheté d'occasion il y a 2 ans dans le nord, près de Valenciennes, juste avant d'aller suivre un tour de France dans l'EHPAD où vivait ma grand-mère. Donc, j'aime bien emmener ce vélo-là, lui faire voir du pays et qu'il ne reste pas que à Angers.
Et vous allez travailler sur quel projet? Parce que souvent, parce qu'une résidence, c'est long quand même, 3 mois, c'est long. Ça veut dire qu'il y a un projet quand même qui est soit commencé, soit c'est une fin de projet pour nettoyer un peu toute l'écriture et pouvoir le livrer à un éditeur. C'est sur quel projet que vous allez travailler?
Là, je vais travailler sur un projet vraiment naissant autour de ma grand-mère, d'une de mes grand-mères, qui s'appelle Albertine. Alors, peut-être que les auditeurs de Radio G connaissent le programme aussi que j'anime sur la radio, qui porte son prénom, Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères, donc, où j'invite des invités et pendant une demi-heure, on se souvient de leur grand-mère, on les redessine. Et voilà, je mène un travail global sous plusieurs formes sur l'héritage grand-maternel qui m'intéresse beaucoup. Et le noyau de cet intérêt, c'est quand même son histoire à elle, l'histoire d'Albertine. Et je commence à aller un petit peu au cœur du noyau. Donc, je suis allé passer un petit peu de temps là où elle vivait, dans son village natal. Et puis, on va commencer à travailler autour de ça pendant la résidence.
Alors, j'invite les auditeurs effectivement à écouter ce programme, Albertine, moi que je trouve très... déjà, rien que le prénom, moi je trouve qu'il est le titre du programme, cette Albertine, elle ouvre tellement de portes à l'imaginaire et à l'écoute. Je pense que beaucoup vont être surpris de la densité, de la charge émotionnelle qu'il y a dans ce programme. Vu la charge d'activité que vous avez, il continue ce Albertine, cette saison?
Oui, il va continuer cette saison. J'ai enregistré plusieurs émissions au printemps pour pouvoir
avoir
du stock et proposer des épisodes même pendant mon absence, pendant l'automne.
Ben, je vais vous remercier, Valentin Dedon, d'être venu avant votre grand départ pour l'Allier et pour ce périple en vélo. Je vais vous remercier d'être venu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier fanion que je trouve encore une fois très chargé d'émotions parce que vous travaillez du souvenir et donc ça fabrique de l'émotion. Moi, j'étais vraiment saisi, même si je ne suis pas un fan inconditionnel de football et que je n'ai jamais bien compris ces passions-là, mais j'ai le droit d'avoir quelques lacunes et quelques carences quand même. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Un grand merci, Luc, et à bientôt. Merci beaucoup.
On va faire une première pause musicale.
Là dans les branches, lumière noire, étreinte franche, et ton regard, j'ai vu les plumes à la fenêtre, le chat content quitter la fête, marée de Loire tendre la crue sur un départ que contre que consolation, quelques amis, désolation. Je reconnais que ça résonne, que ça me plaît. Là dans les branches, lumière de foire, mon cœur flanche et ton regard.
Vous venez d'écouter Lumière Noire par le groupe Jodo John. C'était un live lors du concert de fin de résidence du groupe au lycée Joachim du Bellay. Je vous recommande la vidéo sur le site du Shabada. Et vous écoutez Entre les Pages. Et ce n'est que sur Radio G. À nous maintenant, Joël Glasiou. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous offrez le luxe de publier deux livres en même temps, Fenêtre, aux éditions Maya, et David Danger et la Jeune Grecque, aux éditions Le Petit Pavé. Vous n'êtes pas un peu trop gourmand ?
Non, je ne pense pas, parce que depuis 10 ans, je n'avais rien publié.
Ah, donc il y a vraiment une bonne excuse là.
Tout à fait.
On va commencer par Fenêtre.
Alors, allons-y.
Fenêtre, un drôle de petit livre, 85 micro-nouvelles, rien moins que ça. D'abord, il faut expliquer ce que c'est une micro-nouvelle.
Alors, une micro-nouvelle, c'est effectivement une nouvelle qui fait moins de 1000 mots, mais sur la revue Arfang que j'anime, il y a quelques années, nous avons lancé une micro-nouvelle du mois, 100 mots.
100 mots.
100 mots, hein, 100 mots pour le dire, c'est le nom de la rubrique. Et effectivement, bon, je m'y suis aussi, avant de lancer cette rubrique, je m'y suis essayé. 100 mots, ça, souvent c'est un peu court quand même, hein. C'est très très difficile, c'est très contraignant. Et là, en écrivant aussi des petites choses comme ça, par ailleurs j'écris aussi des haïkus, hein, donc là c'est encore plus restreint.
Là c'est...
17 syllabes.
C'est halos, là.
Voilà. Et donc, naturellement, je me suis aperçu que une longueur de 150 mots à peu près était une longueur qui me convenait bien. Je me souviens que lorsque j'étais élève, étudiant, etc., je faisais un peu d'athlétisme. Et j'avais des camarades qui couraient le 100 mètres et moi, je courais le 110 mètres haies. C'est-à-dire, c'était une distance très courte. Et en plus avec contrainte. Mmh. Donc là, je pense qu'on va parler de contrainte, puisque je m'en suis imposé un certain nombre dans ces fenêtres.
Mmh. Alors, rassurez-moi, ce n'est pas un exposé sur l'architecture des fenêtres.
Pas du tout.
Non. Hein. vous avez dans ce recueil, hein, quand même, vous avez utilisé une sorte de fil rouge. Alors, il y a des mots qui sont en caractère gras.
Voilà. Alors, la composition du livre, qui pour moi est toujours très très important, parce que chaque livre a une histoire et une genèse. J'avais écrit donc des petits textes comme ça, notamment après le dernier que j'avais publié, qui s'appelait « À l'envers l'origine », publié aux éditions Luce Vilquin. Et dans les contrats d'éditeur, il est stipulé qu'on doit présenter un autre ouvrage dans les 3 ans. Et je lui avais dit « Oui, d'accord, mais ça ne sera pas la même chose, ça sera court, etc. » Bon, ça ne s'est pas fait en 3 ans pour différentes raisons. Les éditions Luce Vilquin ont disparu, mais j'avais commencé à travailler donc des textes qui tournaient autour des nuages, des fenêtres, de la ville, etc. Ils faisaient tous à peu près 150 mots, etc. Je me suis aperçu que, d'abord, c'était presque dans la disposition, quand je les ai tapés sur l'ordinateur, qu'ils constituaient presque des alexandrins, et qu'en les alignant, ça faisait des rectangles. Donc là, c'est l'idée de la présentation qui est très calibrée, c'est-à-dire vous avez 85 micro-nouvelles qui sont des rectangles parfaits, c'est-à-dire des fenêtres. Et chaque page est une fenêtre, de toute façon, hein, une page de livre, c'est évidemment une fenêtre. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à la question, il fallait trouver un lien, une composition. Ça arrive toujours en cours de route chez moi, et c'est là, à ce moment-là, que ça prend forme, hein. Et ça a été l'idée du dictionnaire. Alors, ce n'est pas un dictionnaire amoureux des fenêtres, bien sûr, mais... et donc là, il fallait aussi trouver des titres à ces textes-là. Donc, les titres sont intégrés en caractère gras dans chaque texte. Et cerise sur le gâteau, ou contrainte supplémentaire, si on est dans la lignée oulipienne. Chaque mot qui est dans le dictionnaire peut se retrouver en caractère italique simplement, comme des liens hypertextes. Et donc, si ce texte-là, on le lisait sur un écran, on pourrait naviguer d'un texte à l'autre, ce qui constitue un fil rouge, mais un peu, si je puis dire, aléatoire, hein, et qui donne une grande liberté. C'est-à-dire que ces textes-là, je me mets aussi à la place du lecteur. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les écrire. J'espère que le lecteur peut aussi y trouver son plaisir, parce que ça peut se lire dans n'importe quel sens, comme un dictionnaire. On peut prendre une page puis une autre, et on peut passer d'une page à une autre en suivant les liens hypertextes, par exemple. Voilà.
Alors, comme ça, j'ai la réponse à ma question. Parce que je me demandais, je ne voyais pas de titre, mais il n'y avait pas de raison objective qu'il y ait un titre. Maintenant, je sais qu'il y a un titre à chaque nouvelle. C'est, je vais sortir un peu mieux de cette conversation. Il y en a une, on viendra sur d'autres, mais il y en a une particulièrement qui est extrêmement troublante. Parce que elle, comment dire ça, avec l'évolution des comportements, des mœurs, aujourd'hui la question du genre en littérature, elle est posée. Il y en a une, c'est l'histoire d'un couple. Et cette histoire de couple, qui sont dans un lit, c'est « il ». Parce que le masculin en français l'emporte sur le féminin. Et moi, j'ai commencé à lire cette micro-nouvelle en me disant, je suis devant, là, j'ai un couple d'homosexuels. Mais non, vous avez juste respecté la syntaxe française, mais ça crée un trouble malgré tout. L'évolution de la société fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'écriture aussi nous entraîne dans des biais différents. Alors, un des angles que moi j'ai repéré dans ce recueil, eh ben c'est la référence. Et de la référence, il y en a. Il y en a une première pour moi, c'est la référence à Jacques Brel. Elle était imparable, celle-là.
Oui, bien sûr. Bon, il y a des références aux chansons,
oui,
aux livres,
oui,
à la peinture, on en reparlera peut-être. À beaucoup de choses. Il y a des clins d'œil de connivence, de référence.
Celle de
ça,
Brel.
C'était le jeu. Et le jeu, il se retrouve aussi dans un jeu alphabétique, puisque en fait, toutes les lettres de l'alphabet sont présentes avec les noms des personnes que je cite.
Mmh.
De même que les prénoms qui sont choisis pour chaque personnage intégrant chaque micro-nouvelle.
Alors moi, je suis cité deux fois, donc je me suis senti très fier. Il y a deux textes avec Luc dedans, donc je me suis dit, tiens, j'ai atteint la gloire. Non, donc celle qui est consacrée, du moins qui fait référence à Brel, c'est celle, page 47. D'ailleurs, vous citez un extrait de la chanson.
Oui, oui.
Je suis allé réécouter la chanson et je me suis dit, mais finalement, Brel, c'est quand même assez fou, quoi. Il y en a une... elle était aussi imparable, celle-là, page 64, à Jacques Prévert et à son cancre. L'élève assis à côté de la fenêtre. Hein?
Oui. avec toute une réflexion sur les nuages, hein, puisque c'est l'un des premiers textes qui a été écrit, d'ailleurs. Avec cet enfant qui rêve, par la fenêtre, qu'il voit les nuages paraître et qui, évidemment, imagine plein de choses. On est dans la Paris idéologie,
oui,
donc mot un peu difficile, mais qui est un vilain défaut, si vous voulez. Et donc, il doit se justifier d'une certaine manière.
Alors, moi, je vous propose de lire deux textes.
Oui.
On est convenu de ceux que vous alliez lire. Donc vous allez finir par le peintre, mais vous allez commencer par l'autre, pour qu'on écoute un peu ce que ça donne.
Oui, alors donc le premier, je dirais, ça pourrait être une définition de ce qui peut, dans ma tête, être une fenêtre qui peut se décliner de différentes manières, aussi bien en littérature qu'en peinture, etc. Donc voilà. Donc là, le personnage, c'est John. Tout au long de l'année, une fois par semaine, John se ménageait quelques moments de répit où, comme il disait, il ouvrait une fenêtre. Il contemplait un tableau ou une photo, écoutait religieusement une musique, fredonnait le refrain d'une chanson connue, écrivait quelques lignes pour ressusciter un objet, un souvenir, une sensation. Les mots ouvraient des brèches dans le quotidien, brisaient la ronde monotone des journées qui tournaient, qui se suivaient, qui se ressemblaient. Il épinglait comme un papillon chaque texte sur une planche recouverte de liège. Chaque fenêtre était promesse d'évasion, d'un rêve qu'il y ait aujourd'hui à demain, qui permettait d'être là et aussi ailleurs. La page d'un livre, le cadre d'une toile, l'écran de télévision ou d'ordinateur, le cadre de la fenêtre ou d'une photo, autant d'ouvertures pour piéger un instant, pour saisir un tout petit morceau de réel, comme un mandala pour méditer jusqu'au soir.
Voilà, ça c'est la... Là on a une quintessence, presque, hein, de la fenêtre. Et puis, il y en a un deuxième qui m'intéresse. Je vous laisse la lire.
Alors, il s'agit effectivement d'une référence au peintre Hopper. Donc, chaque auditeur peut peut-être se représenter le tableau.
On va en parler. Ne cassez pas tout. Voilà. J'ai cherché un effet, donc ne cassez pas tout.
Donc, voilà. Fatigués, nous étions assis sur un banc. Le vent faisait danser les branches d'acacia. La vue reposant des petits pavillons, tous identiques, parfaitement alignés, tout au long du boulevard jusqu'à l'infini, nous faisait oublier le tumulte de la vie. Nous n'avions rien à faire sinon écouter le frisli mélodique des rouges-gorges. Rien à voir. Sinon, une fenêtre entrouverte. Une silhouette découpée à contre-jour. Une brise se leva, les rideaux frémirent. Quelques nuages annonçaient un orage au loin. Soudain, le voilage se gonfla de désir. L'ombre entr'aperçue un court instant s'esquiva. Mon ami Édouard attendit encore un peu, espérant ferme qu'elle pourrait revenir. Quand il sortit carnet et crayon de sa poche, la jeune femme apparut. Descendit les marches, les deux mains sur son chapeau, de peur qu'il s'envole. Vite, son œil, sa main saisirent cet instant pour qu'il reste gravé longtemps en nos mémoires.
Merci déjà pour cette lecture. Ça fait du bien d'écouter des lectures. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Bien sûr, référence à Hopper et référence à ce magnifique tableau qui s'appelle Summertime. Hopper est un génie, en tout cas pour moi. Summertime, c'est cette femme extrêmement troublante, d'ailleurs, qui descend les marches d'une maison, d'une maison typiquement américaine. C'est un tableau magnifique, quoi. C'est vraiment un tableau magnifique, et je trouve que l'idée. Alors, je me demandais pourquoi il y avait un Edward dans cette micro-nouvelle. Puis après, donc je l'ai lu, et je me disais mais c'est bizarre ce tableau, je le connais bien. La femme ne tient pas son chapeau. Vous lui faites tenir son chapeau, hein.
Donc oui, non, mais toujours des petits détails. Oui. Alors, je pense qu'il y a un autre texte lié à Edward Hopper qui s'appelle La route à quatre voies avec une station-service et un personnage, etc. Et là aussi, je retrouve le personnage d'Edouard. Il y a d'autres références à certains tableaux. Je pense à Vermeer, notamment. Aussi à Magritte, il y a plusieurs références à Magritte.
Magritte est extrêmement présent.
Oui,
parce que
Magritte, il y a un rapport au titre et aux mots très très important. Et un auquel je tiens beaucoup, parce que je m'en suis aperçu après, et ça va conforter ce que vous venez de dire, c'est sur Matisse. Et je l'ai écrit, en fait, le tableau tel que je le décris n'existe pas. C'est dans ma mémoire, ça s'est mélangé, c'est-à-dire c'est la synthèse de 3 ou 4 tableaux sur les fenêtres de Matisse.
Mmh. Ouais. Alors, et il y a un peintre qui manque. J'attendais de le voir surgir, mais je ne l'ai pas vu. Van Gogh n'est pas là?
Non.
Bon, qu'est-ce à dire? Pourtant, fenêtre en peinture, s'il y a bien une fenêtre, c'est celle de Van Gogh, quand même.
Oui, il y en a plein d'autres, vous savez. Hein. Mais bon, je ne pouvais pas multiplier. Il aurait fallu faire un recueil entièrement sur les fenêtres de peinture.
De peinture.
Il y avait aussi des fenêtres du côté de la littérature. Proust, Pérec, Camus et quelques autres.
Donc ça, c'est premier livre publié. Vous écoutez Entre les pages sur Radio G. Passons, si vous le voulez bien, à cet autre livre, David d'Angers et la jeune grecque. Alors, elle est venue d'où, cette idée?
Tout à l'heure, j'ai dit que l'idée de fenêtre remontait à une dizaine d'années. Là, l'idée, à la limite, elle est beaucoup plus ancienne, puisque j'avais publié dans mon premier recueil de nouvelles en 1997, si mes souvenirs sont exacts, qui s'intitulait « Où le fleuve écrit histoire », le premier texte était une nouvelle sous forme de lettre que David d'Angers envoyait à deux élèves qu'il avait eus, hein, un jeune couple, qu'il l'interrogeait sur sa pratique, son art, etc., au moment où il faisait son dernier voyage, semaines avant sa mort. Il avait remonté la Loire en bateau pour aller dire au revoir à sa statue, à Saint-Florent-le-Vieil, à la statue de Bonchamp.
À Bonchamp.
Et ça c'était un texte très fort pour moi. Et il est resté en mémoire continuellement. Et il n'y a que 2 ou 3 ans, j'ai eu besoin de parler justement du processus de création de la Genèse, etc. Et là, j'ai trouvé une autre statue de David d'Angers que je connais depuis mon enfance, parce que j'ai côtoyé ce qui s'appelait la galerie David d'Angers dans son ancienne formule, et encore aujourd'hui, depuis bon, maintenant plus de 50 ans, même 60. Et il y avait cette statue qui m'interrogeait quand j'étais enfant, qui est la statue de la jeune grecque au tombeau de Marco Botzaris. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça représentait, etc. Mais c'était intriguant pour plusieurs raisons. La première, c'était que d'abord, c'était une fillette, une jeune femme, alors que toutes les autres statues sont masculines.
Hein. Et diablement masculines. Hein.
Voilà. Et là, elle est dénudée. Qu'est-ce qu'elle faisait là? En plus, sur un tombeau. Qu'est-ce que vient faire une enfant dénudée sur un tombeau? Et en plus, ce Marco Botzaris, bon, ça ne me parlait pas, j'ai su beaucoup plus tard qui c'était, effectivement. Donc voilà, ça c'était un point de départ, si vous voulez. Il y a quelques années, je me suis interrogé sur... justement, moi je pense que chaque livre, chaque œuvre d'art, quelle qu'elle soit, peinture, sculpture, livre, a une histoire et une genèse particulière. Et donc comment ça fonctionne? Ce qu'on ne voit jamais, on voit, le lecteur voit le produit fini, le livre. Dans un musée, on voit le tableau ou la sculpture terminée. Qu'est-ce qu'il y a en amont, hein, entre le moment de la conception, l'idée, c'est la question que vous me posez, comment est née l'idée, hein, voilà, et ensuite, comment ça se concrétise, et ensuite, comment ça vit. Donc là, c'est un peu... Est-ce que les statues ont une vie? Oui, ça a une conception. Et donc là, la conception, elle est très nette. On va faire un tout petit peu d'histoire parce que c'est... Alors, je ne sais pas dans quel genre on va classer ce livre-là. C'est-à-dire une nouvelle épistolaire historique, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous lui trouvez une autre étiquette.
Moi, j'ai appelé ça roman épistolaire. Hein. C'est un roman épistolaire très bizarre parce que...
On brasse deux siècles.
Et voilà, ça couvre, ce sont des courriers qui s'étalent sur deux siècles. Donc c'est un roman épistolaire, c'est souvent entre deux personnages, voilà, classique. Là, vous tirez l'histoire de 1850, grosso modo.
Même avant, hein,
un petit peu avant. Ouais. Et jusqu'à
2023. Voilà, 2023. Deux siècles. Voilà. Je commence en 1823 pour terminer en 2023.
Deux siècles. Voilà.
Deux siècles. Deux siècles de vie d'une statue. Hein, alors que les Angevins peut-être peuvent connaître et où ils peuvent aller
ils la peuvent voir. Aller
elle, la est, voir. Elle est dans le musée à la galerie David d'Angers. Hein, elle s'appelle David, la jeune grecque au tombeau de Botzaris. Je crois qu'elle est mise dans un petit coin depuis quelque temps parce qu'en fait elle a subi des dégâts des eaux, hein, et qu'il a fallu la protéger parce que c'était quand même un modèle en plâtre. Mais, mais on viendra peut-être sur ce problème du modèle en plâtre plus tard. Mais oui, j'ai oublié mon propos, là.
Non, mais on a qualifié le roman, on voit la naissance, on voit la
naissance,
forme.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 1823, c'est, je crois, la date de la mort de ce général grec, Marco Botzaris, qui se bat pour la liberté en Grèce, la révolution grecque, si vous voulez. Hein. David d'Angers réagit tout de suite, il adore la Grèce, hein, et il décide dans sa tête qu'il va faire un monument et qu'il enverra en Grèce pour le tombeau de Botzaris. Sauf que, entre cette idée-là qui germe dans son esprit et la réalisation de la statue, il va se passer 7 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant 7 ans? D'abord, il y a une idée, c'est-à-dire qu'il va voir une composition en se promenant dans le cimetière du Père-Lachaise qui vient de s'ouvrir, où il se promène avec son ami Victor Hugo. Hein, il voit une jeune fille qui est couchée sur une tombe et qui est en train d'apprendre à lire ou des plaies, etc. Voilà, ça lui donne l'idée de la composition. Quelque temps plus tard, toujours avec Victor Hugo, dans le quartier Montparnasse, il voit dans une cour une petite fille, en guenille totalement, etc.
Hugolienne.
Tout à fait, oui, misérable. Hein, oui. C'est le mot qui viendra, effectivement. Mmh. Hein, et il lui demande si elle peut venir poser dans son atelier, il demande l'autorisation aux parents. Détail que j'ai trouvé à la fois dans les notes et les carnets de David d'Angers, mais aussi... chez Hugo. Voilà. Donc, j'ai inventé, effectivement, un dialogue entre Hugo. Mmh. Au moment, quand cette statue est finie, il y a des échanges épistolaire. Hugo dédie un poème à David d'Angers. Ils échangent des lettres. Et là, bon, je vais peut-être même un peu plus loin, mais enfin, je fais dialoguer sur le livre que Hugo, lui aussi, est en train d'écrire à ce moment-là, dont il a eu l'idée, toujours en compagnie de David d'Angers, du côté de ce qui est aujourd'hui la place de Grève et l'hôtel de Paris, dans des archives de la justice de l'époque, du procès d'un certain Claude Gueux, et il va faire un texte contre la peine de mort qui lui tient vraiment à cœur. Voilà. Et donc, comment un peintre, un écrivain, un sculpteur ont l'idée de l'œuvre. Ça, c'est le point de départ. Mmh. Et puis ensuite, il y a la réalisation qu'on voit. Alors, ça, c'est le premier point. Mais après, évidemment, si j'arrive jusque sur le deux siècles, il est évident que les statues vivent plus longtemps que les sculpteurs. Donc, mais la vie de cette statue est très mouvementée. Mmh. Parce que il y a donc le modèle en plâtre que David d'Angers dont il a fait don à son musée, à sa galerie, qui s'ouvre dans les années de son vivant, je pense dans les années 34, je crois, à peu près. Il refuse de venir à l'inauguration, il ne veut pas voir ses statues. Mais il tient particulièrement à cette statue-là. Il y a un discours qui est assez, que j'ai restitué quelques lignes. Il se déplace à Marseille le jour où la statue embarque pour Athènes, et il fait un discours improvisé. Alors, il a pris quelques notes, et c'est absolument, il considère que c'est sa fille, véritablement. Et jusqu'à la fin de sa vie, exilé en Grèce après le coup d'État de Napoléon, Victor Hugo, lui, il choisira d'aller en Grèce, il découvrira sa statue qui a été saccagée, le doigt coupé, etc. Il en est absolument chagrin. Mmh.
Voilà. Alors, on va laisser les lecteurs découvrir tout ça, parce que l'intérêt, donc, vous avez refabriqué ces lettres. Moi, il y a une question que je me pose, parce qu'il y a aussi l'hommage à Bonchamp, oui. À Saint-Florent-le-Vieil. Bon. Alors, hommage à Bonchamp, militaire vendéen, par un républicain...
franc-maçon.
Franc-maçon. Là, il y a quelque chose qui est...
Oui, mais ça, c'est ce que j'expliquais dans la première lettre que j'ai restituée au centre, là, à peu près telle qu'elle avait été publiée en 97, mais que les Angevins connaissent bien, finalement. Parce qu'en fait, c'est toute l'histoire de David d'Angers qui, alors qu'il avait 5 ans, son père l'emmène voir les soldats de la République se battre pendant les guerres de Vendée. Le père est fait prisonnier, il est enfermé à Saint-Florent-le-Vieil.
Dans l'église.
Pendant ce temps-là, le jeune David d'Angers suit l'armée vendéenne. Il est recueilli par des femmes vendéennes, etc. Il va attendre sur le quai de Saint-Florent-le-Vieil, où il va... Moi, j'imagine qu'il apprend là à dessiner... Enfin, son père lui a appris à dessiner, mais qu'il va dessiner
ce qui se passe, etc. Sur le quai.
Et le jour où, juste avant sa mort, Bonchamp gracie les prisonniers. Donc, son père le retrouve sur le quai de Saint-Florent, là, en face la maison de Julien Gracq, aujourd'hui. Et donc, quelques 20 ans après, les Vendéens viennent le trouver, alors que lui, évidemment, il a fait l'école de Rome entre-temps, il est devenu quasiment le sculpteur français, etc. Les Vendéens viennent lui demander s'il accepterait de faire, etc. Et il a cette phrase qui est « Oui, je n'ai du marbre et du bronze que pour les héros, et je ne le donnerai pas à tous les autres Vendéens, même des Elbées, de Charette et quelques autres, mais Bonchamp, ce sont les valeurs que David d'Angers a toujours défendues, quelles qu'elles soient, à travers sa conception de la sculpture, qui doit être éducative et dans le respect des grandes valeurs de la République.
Voilà. C'est une statue magnifique, enfin c'est une sculpture magnifique, celle de Bonchamp, enfin d'une épure, enfin un geste, etc. Donc tout le monde doit aller à Saint-Florent-le-Vieil, à l'église de Saint-Florent-le-Vieil pour la voir. On va être pris par le temps. Oui, une dernière.
Oui, parce que il y a des points entre les deux statues, le Bonchamp et la petite grecque, c'est-à-dire l'importance des mains et du regard. Mm-hmm. Et je pense que les deux statues sont historiquement très importantes. De manière très, très différente, mais capitale. Avec cette originalité, quand même, c'est de mettre une enfant sur un tombeau.
Bien sûr.
Qui lit. Et ne pas représenter parce que le tombeau de Bonchamp, c'est Bonchamp qui figure, mais là, on a une jeune fille qui est sur le tombeau d'un héros grec. Voilà.
Je vous remercie, Jaël Glasiou, d'être venu jusque dans le studio. Le temps passe trop vite.
Merci.
Le temps passe vraiment trop vite. On va faire une nouvelle pause musicale. C'était Bloom qui chantait Enfant sage. Enfin, Enfant sage, c'est un peu frigorifiant quand même, comme Enfant sage, mais c'est Bloom. Merci Jaël Glasiou pour cette visite. Mais il est l'heure de rendre les clés du studio. Et avant cela, un petit coup d'œil sur les événements à venir. Ça commence le jeudi 18 septembre avec le premier bouillon de l'année. Une rencontre avec Sharif Majdanlani, et c'est à l'Université catholique de l'Ouest. Et puis ça continue avec une manifestation autour de Raoul Valin, photographe. Raoul Valin, c'est le père de Marine Valin, la traductrice que j'avais reçue le 7 mai dernier. Son père était photographe et le 19 septembre, une causerie lui est consacrée, tandis que le 20 septembre, c'est une lecture de textes autour de ses photos qui sera faite par Dominique Huette, vous savez, un des responsables des éditions pneumatiques. Et tout ça, c'est à Chantosso. Mais le 20 septembre, à Chaudefaux-sur-Layon, c'est la deuxième édition de Topette, organisée par la librairie Le Repère des Héros, 14 auteurs invités, des rencontres, une battle, un quiz, et pour finir la journée, un DJ set, toutes les informations sur le compte Instagram de la librairie. Et il ne faudra pas manquer l'International Poétique les 28 et 29 septembre à Villevêque. C'est organisé par la Miel 49. À nouveau, vous tapez International Poétique dans la barre de recherche et vous tomberez sur le programme. Et c'est un programme vraiment beau. Enfin, j'oublie pas le festival Les Préférences organisé par la maison Julien Gracq et dont Radio G et Entre les Pages sont partenaires. C'est du 23 au 28 septembre. C'est tout le long de la Loire, 18 autrices et auteurs invités, des balades en tout, Denis Lavant pour une lecture des oiseaux de Pierre Bergougnoux. Moi, j'aurai le plaisir d'animer pendant le festival deux rencontres, le 23 septembre avec Gaël Obiegli et le 25 septembre avec Phoebe Hadjimarcos Clark. Ces deux rencontres auront lieu à l'Institut municipal d'Angers. À nouveau, toutes les informations en tapant Festival Les Préférences dans la barre de recherche de votre moteur de recherche, puisque c'est une barre de recherche. Voilà. Au cours de l'émission, vous avez entendu Joan O'Joan qui a chanté Lumière Noire et Bloom qui a chanté Enfant Sage. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous ? Eh bien, le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 24 septembre à 17h. J'aurai autour de la table Antoine Mouton, directeur artistique du festival Les Préférences, et Jérémy Fabre, directeur de la maison Julien Gracq, et Frédéric Germano, l'une des organisatrices de l'International Poétique, et nous parlerons, nous détaillerons un peu le programme de ces deux manifestations et aussi l'importance de ces manifestations qui s'ancrent sur les territoires. C'est important, la culture dans les territoires, quoi qu'en pensent certaines régions, dont celle des Pays de la Loire. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant,
in 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.